Chapitre 4 Liens. Souples et expertes, les mains de Brigg reposaient sur les rayons de la barre de la Vivacia. Le pirate avait cet air distant du marin qui ressent le navire comme une extension de son propre corps. Yéma s'arrêta un instant pour l'observer avant de s'approcher. Brigg était jeune, pas plus de 25 ans. Ses cheveux châtains étaient emprisonnés dans un mouchoir jaune marqué de l'emblème du corbeau. Il avait les yeux gris, et son ancien tatouage d'esclave disparaissait presque sous le dessin d'un corbeau bleu foncé. Malgré sa jeunesse, il arborait un air de résolution qui lui valait d'être promptement obéi, même d'hommes plus âgés. Kenith avait judicieusement choisi le second pour commander la Vivacia jusqu'au rétablissement de son capitaine. Yéma respira profondément. Il aborda son aîné avec respect et dignité. Il fallait que Brigg le considérât comme un homme. Il attendit que l'autre tournât les yeux vers lui, puis il déclara doucement mais avec fermeté
« J'ai quelques questions à vous poser. »«
Vraiment ?»
fit Brigg d'un ton plein de défi. Puis il leva vivement le regard vers l'homme de vigie.
« Oui, vraiment. »
répondit Yéma fermement.
« La jambe de votre capitaine ne guérit pas. Combien de temps cela nous prendra-t-il pour atteindre Anse-au-Taureau ?»«
Un jour et demi, »
dit Brigg après un bref instant de réflexion.
« Peut-être deux. »
L'expression de son visage paraissait figée. Yéma hocha la tête pour lui-même.
« Je crois que nous pouvons attendre jusque-là. J'aurai besoin d'un certain nombre de choses avant de tenter l'amputation. J'espère qu'on pourra se les procurer là-bas. Entre-temps, je pourrais améliorer son état si j'avais ce qu'il faut à bord. Quand les esclaves se sont rebellés contre l'équipage, ils ont mis le navire à sac. La pharmacie est introuvable. Elle me serait très utile maintenant. »
« Personne n'a avoué l'avoir prise ?»
Yéma haussa légèrement les épaules.
« J'ai bien demandé, mais on ne m'a pas répondu. La plupart des esclaves libérés ne me parlent qu'à contre-cœur. Je crois que Saadar les monte contre moi. »
Il hésita. Il paraissait s'apitoyer sur lui-même. Il ne se gagnerait pas le respect de Brigg en se plaignant. Il poursuivit avec plus de discernement.
« Peut-être ne savent-ils même pas ce qu'ils ont en leur possession ?» Ou dans la confusion de la tempête et de la mutinerie, quelqu'un a pu s'emparer du coffre, puis l'abandonner et il sera passé par-dessus bord. »
Yéma souffla un peu et ajouta
« Il contenait des remèdes qui pourraient soulager votre capitaine. »
Brigg lui lança un bref coup d'œil. Il était toujours impassible. Soudain, il se mit à brailler.
« Cage !»
Yéma se raidit, s'attendant à être empoigné et emmené de force. Mais quand l'homme apparut, Brigg lui ordonna
« Secoue-moi un peu tout le monde. Le coffre à pharmacie a disparu. Si quelqu'un l'a, je veux qu'on le trouve. Au moins, je veux savoir qui l'a eu entre les mains en dernier. Exécution !»«
Oui, lieutenant !»
répondit Cage, qui partit au pas de course. Mais Yéma ne bougeait pas. Et Brigg soupira en gonflant les narines.
« Autre chose.
Mon père est...
« Navire en vue !»
cria soudain l'homme de vigie qui ajouta un instant plus tard
« Galère calcédienne, avec le pavillon du gouverneur! Approche rapide, à voile et à rame! Il devait mouiller dans la crique !»« Nom de ça !» cria Brigg. « Ce fils de pute a amené des mercenaires calcédiens !»
rugit-il soudain.
« L'équipage sur le pont, tous les autres à l'intérieur, dégagez, envoyez de la toile !»
Yéma s'élança vers la figure de proue en se faufilant avec agilité entre les matelots. Le pont grouillait comme une fourmilière. En avant, la Marietta s'écartait rapidement. Yéma gagna le gaillard d'avant et agrippa la lisse. Derrière lui, il entendait des cris lointains, hurlés depuis le bâtiment calcédien. Brigg ne se donnait pas la peine de répondre.
« Je ne comprends pas !» s'écria Vivacia. « Pourquoi les galères de guerre calcédiennes battent-elles pavillon du gouverneur ? J'en ai entendu parler à Jamelia. Le gouverneur Kosgo a engagé des calcédiens pour patrouiller dans la passe intérieure. Ils sont censés la débarrasser des pirates, mais cela n'explique pas pourquoi ils nous poursuivent. Minute.
Il se jeta dans le gréement auquel il se mit à grimper afin de mieux voir ce qui se passait. Le navire chalcédien était armé pour le combat. Outre sa voilure, il disposait de deux rangs d'esclaves rameurs. Ses ponts grouillaient d'hommes en armes. Le soleil printanier faisait étinceler les casques et les épées. Le pavillon du gouverneur, portant flèches d'argent en champ d'azur, paraissait incongru au-dessus des voiles rouge sang de la galère.
« Ils convoquent leur navire de guerre dans nos eaux ?»
Vivacia était incrédule.
« Il est fou ! Les Chalcédiens sont sans honneur ! C'est comme enfermer le loup dans la bergerie !»
Elle jeta par-dessus son épaule un coup d'œil rempli d'effroi.
« Est-ce qu'ils nous poursuivent ?»«
Oui, » dit Yémin laconiquement. Son cœur battait à grands coups. Que fallait-il espérer ? Qu'ils prennent proprement la fuite ou que la patrouille chalcédienne les arraisonne ? Les pirates ne livreraient pas la Vivacia sans combattre. Un nouveau carnage. Si les Chalcédiens l'emportaient, restitueraient-ils Vivacia à ses propriétaires légitimes ? Peut-être. Il se doutait qu'il dérouterait le navire vers Jamelia, où le gouverneur déciderait de son sort. Les esclaves entassés sur les ponts inférieurs seraient de nouveau enchaînés, il le savait, et se battraient. Ils étaient supérieurs en nombre aux abordeurs du vaisseau chalcédien, mais ils n'étaient ni armés ni expérimentés. Un massacre, conclut-il. Devait-il pousser Vivacia à prendre la fuite ou à traîner ? Avant même qu'il ait pu formuler son incertitude, la décision lui fut dérobée. Le vaisseau plus petit, aux lignes plus pures, poussé par les avirons et par le vent, gagnait sur eux. Pour la première fois, Yémin remarqua le cruel éperon qui prolongeait la proue de la galère. Une volée de flèches, dont certaines enflammées, jaillit du pont chalcédien en décrivant un arc de cercle. Yémin poussa un cri inintelligible pour avertir Vivacia. La première grêle manqua son but, mais leurs intentions étaient claires désormais. Dans un déploiement d'habileté et d'audace, la Marietta, prise soudain de la gîte, remonta dans le vent et vira pour venir se placer derrière la Vivacia et fondre droit sur la proue du navire chalcédien. Yémin crut apercevoir sur le pont le pirate Sorcor, qui exhortait ses hommes à redoubler d'efforts. Le pavillon au corbeau se déploya brusquement, narguant les chalcédiens. Voilà qui donnait à réfléchir. Quelle sorte de capitaine était-il donc, ce pirate kénite, pour inspirer à ses hommes pareille loyauté? Manifestement, Sorcor avait l'intention de détourner sur lui la poursuite. Depuis son perchoir, Yémin vit la Marietta trembler alors que ses catapultes montées sur le pont projetaient très haut une pluie de pierrailles sur le vaisseau de patrouille. Quelques cailloux manquèrent le but et tombèrent dans l'eau en faisant jaillir des gerbes blanches, mais une bonne partie retomba avec fracas sur les ponts de la galère. Ce fut la panique parmi les rameurs. Le battement régulier des avirons ressembla soudain au mouvement désarticulé et frénétique d'un mille-pattes. La distance entre le patrouilleur et la Vivacia s'accrut régulièrement et rapidement. La Marietta ne paraissait pas vouloir s'attarder à combattre. Après avoir semé la zizanie, elle borda ses voiles, revira et reprit sa route. Ayant retrouvé la cadence régulière de sa vogue, la galère se lança à sa poursuite. Yémin plissait les yeux pour voir, mais le timonier dirigeait Vivacia à l'abri d'une île. Il n'avait plus de visibilité. Il comprit tout à coup la ruse. La Vivacia était mise rapidement hors de vue, tandis que la Marietta attirait la galère au loin. Il descendit de son perchoir et sauta lestement sur le pont.
Eh bien, c'était intéressant,
fit-il remarquer avec ironie à Vivacia. Mais la vive nef était distraite.
Kénite,
répondit-elle.
Que lui arrive-t-il ?
Demanda Yémin.
Mousse !
La voix sèche de la femme claqua derrière lui. Il se retourna et aperçut Etta qui le foudroyait du regard.
« Le capitaine te demande, tout de suite !»
Son ton était comminatoire, mais ses yeux n'étaient pas fixés sur lui. Vivacia et elle s'affrontaient du regard. La figure de proue reprit son impassibilité.
« Yémin, ne bouge pas !»
lui ordonna-t-elle doucement. Puis, elle haussa la voix pour s'adresser à la femme pirate.
« Il s'appelle Yema Vestrit, »
précisa-t-elle avec un dédain patricien.
« Vous ne devez pas l'appeler Mousse. »
Elle tourna les yeux vers Yema, lui sourit d'un air bénin et ajouta poliment
« J'ai entendu le capitaine Kenneth te réclamer. Peux-tu aller le voir, s'il te plaît, Yema ?»«
J'y vais immédiatement, » répondit-il.
En s'éloignant, il se demanda ce que Vivacia avait voulu démontrer. Il n'allait pas commettre l'erreur de croire qu'elle avait pris sa défense, non. Et il s'agissait dans cet échange de la lutte de pouvoir entre deux femelles. À sa manière, Vivacia avait revendiqué Yémin comme faisant partie de son domaine et attendait d'État qu'elle respectât le principe. En même temps, il ne lui avait pas déplu de révéler qu'elle était au courant de ce qu'il se passait dans la chambre du capitaine. À la crispation de colère qui avait contracté le visage d'État, Yémin déduisit que cette dernière n'avait guère apprécié. Il jeta un regard derrière lui. La femme pirate n'avait pas bougé. Il n'entendait pas leur voix, mais peut-être parlait-elle tout bas. Il fut de nouveau frappé par l'extraordinaire apparence d'État. Grande et élancée, elle portait sa chemise de soie, son gilet de brocart et ses culottes avec désinvolture, comme s'il s'agissait de simples vêtements en coton. Ses cheveux noirs lustrés, coupés courts, n'atteignaient même pas ses épaules. Elle ne présentait ni rondeur, ni douceur, rien qui dénotât la moindre féminité. Ses yeux sombres étaient menaçants et farouches. D'après ce que Yémin avait constaté, elle avait le tempérament sauvage et impitoyable d'un chat. Il n'avait décelé chez elle nul soupçon de tendresse. Cependant, tous ces éléments contradictoires concouraient à la rendre extrêmement féminine. Jamais il n'avait senti une telle puissance chez une femme. Il se demanda si Vivacia serait de taille à l'emporter.
Kenneth, en effet, l'appelait d'une voix haletante, vibrant d'intensité. Yémin entra sans frapper. Le pirate, grand et maigre, était allongé sur le dos, mais son attitude n'avait rien de paisible. Les mains crispées sur les draps, jointures blanchies comme une femme en couche, la tête renversée sur les oreillers bouleversés. Sur la poitrine dénudée, les muscles saillaient. La bouche ouverte, il happait l'air à petits coups irréguliers. Il pantelait sous l'effort. Ses cheveux noirs et sa chemise ouverte étaient trempés, et l'odeur âcre de la sueur emplissait la cabine.
« Yema !»
dit-il, haletant, en tendant le bras vers le bord de la couchette.
« Je suis là !»
Instinctivement, il prit la main calleuse du pirate dans les siennes. Kenneth les agrippa et les serra si violemment que Yémin eut peine à retenir un cri. Il répondit à la pression en appuyant fortement entre le pouce et les doigts. De l'autre main, il saisit le poignet du pirate pour tenter de trouver le pouls, mais le bracelet le gênait. Il se contenta de promener sa main sur l'avant-bras. Régulièrement, il appuyait puis relâchait son étreinte, selon un rythme apaisant, tandis qu'il prolongeait le pincement sur la main de Kenneth, qui devait avoir pour effet de diminuer la douleur. Il osa s'asseoir au bord de la couchette, se pencha pour chercher les yeux de l'homme à la torture.
« Regardez-moi, » lui dit-il, « respirez avec moi, comme ça. »
Il prit une lente inspiration, la retint en comptant, puis expira doucement. Kenneth fit un timide effort pour l'imiter, mais son souffle était trop court, trop rapide. Yémin hocha la tête pour l'encourager.
« c'est bien, maîtrisez votre corps. La douleur n'est que l'instrument de votre corps, vous pouvez la dominer. »
Il maintint son regard fermement planté dans celui du pirate.
À chaque respiration, il exhalait apaisement, confiance et certitude. afin que Kenit les absorbât. En se concentrant sur son propre corps, il atteignit un point à la périphérie du cœur et des poumons. Ses yeux perdirent de leur fixité et attirèrent plus profond en lui le regard de Kenit pour lui transmettre son calme. Il s'efforçait d'aspirer la souffrance afin qu'elle se dissolve dans l'air de la cabine. Ces simples exercices lui rappelèrent le monastère. Il essaya de s'imprégner de la paix qui émanait de ses souvenirs, d'y puiser des forces. Mais il eut soudain l'impression d'être un charlatan. Qu'était-il en train de faire, là? Singer le vieux Saparte qu'il avait observé en train de soulager ses patients? Voulait-il faire croire à Kenit qu'il était vraiment un prêtre guérisseur et non un novice en robe de bure? Il n'était pas suffisamment entraîné pour parvenir à atténuer la douleur, encore moins pour amputer une jambe gangrenée. Il faisait simplement de son mieux pour aider le pirate. Mais était-il honnête avec lui-même? Ne tentait-il pas de sauver sa propre vie? L'étreinte de Kenit se desserra lentement. Son cou se contracta légèrement et sa tête roula sur les oreillers humides. Sa respiration se ralentit peu à peu, devenant le souffle lourd d'un homme luttant contre l'épuisement. Yémin ne lui lâchait pas la main. Saparte avait parlé d'une technique qui permettait d'insuffler de la force au patient, mais le savoir du garçon ne s'étendait pas jusque-là. Il avait espéré devenir un artiste de ça, non un guérisseur. Pourtant, en étreignant la main moite du malade, il ouvrit son cœur à ça et supplia le Père universel d'intervenir. Il pria afin que la miséricorde divine vînt suppléer à ses manques.
« Je ne peux plus continuer ainsi !»
Dans la bouche d'un autre, ces paroles auraient résonné comme une lamentation ou une supplication. Mais chez Kenit, il s'agissait d'une simple constatation. La douleur refluait ou bien sa capacité de réaction était épuisée. Il ferma ses yeux sombres et Yémin se sentit isolé tout à coup. Le pirate déclara à mi-voix mais distinctement
« Enlève-moi la jambe. Aujourd'hui. Dès que possible. Maintenant. »
Le garçon secoua la tête, puis exprima tout haut son refus.
« Je ne peux pas. Je ne dispose pas de la moitié du nécessaire. Brig dit que Ansotoro n'est qu'à un ou deux jours d'ici, il faut attendre. »
Kenit rouvrit aussitôt les yeux.
« Je ne peux pas attendre, je le sais. »
dit-il avec brusquerie.
« Si c'est à cause de la douleur, du rhum... » commença Yémin, mais l'autre l'interrompit.
« J'ai très mal, oui. Mais pour l'heure, c'est mon navire et mon commandement qui pâtissent le plus. On m'a envoyé un mousse pour m'avertir de l'approche du vaisseau de patrouille. La seule chose que j'ai pu faire, c'est essayer de me lever. Je suis tombé. Là, devant lui, je me suis effondré. J'aurais dû être sur le pont dès que l'homme de vigie a repéré la voile. Nous aurions dû faire demi-tour pour égorger tous ces ports de Chalcédiens sur leurs galères. Au lieu de quoi, nous avons pris la fuite. J'ai laissé le commandement à Brig et on a pris la fuite. Sir Cor a dû se battre à ma place. De plus, tout le monde est au courant à bord. Les esclaves ont une langue. Où que je les laisse, ils répandront la nouvelle que le capitaine Kenit a fui devant le navire de patrouille du gouverneur. Inadmissible !
Dit-il. Puis, d'une voix rêveuse, il ajouta
« Je pourrais tous les noyer !»
Yémin écoutait en silence. Ce n'était plus le pirate suave qui avait fait une cour extravagante à la vive nef, non plus que le capitaine maître de lui-même. C'était, derrière la façade, l'homme mis à nu par la souffrance et l'épuisement. Yémin prit la mesure de sa propre vulnérabilité. Kenit ne tolérerait pas que survécût celui qu'il avait vu tel qu'il était.
Pour le moment, il ne semblait pas avoir conscience de s'être dévoilé de la sorte. Le garçon eut l'impression d'être la souris hypnotisée par le regard du serpent. Tant qu'il resterait tranquille, il avait une chance de passer inaperçu. La main du pirate relâcha son étreinte. Il tourna la tête sur l'oreiller. Ses paupières s'alourdissaient. Au moment où Yémin commençait à espérer qu'il pourrait s'esquiver, la porte de la cabine s'ouvrit sur Etta. Elle parcourut la pièce d'un seul regard.
« Que lui as-tu fait ? »
demanda-t-elle en s'avançant vers la couchette de Kenneth.
« Pourquoi ne bouge-t-il plus ?»
Yémin posa un doigt sur les lèvres pour la faire taire. Elle se renfrogna, mais acquiesça de la tête et lui fit signe d'aller dans un coin de la cabine. Il prit son temps, malgré le froncement de sourcils furieux de la femme. Il reposa doucement la main du pirate sur la couverture, puis se glissa avec lenteur au bas de la couchette afin de ne pas déranger le malade. Peine perdue. Il quittait son chevet quand Kenneth déclara
« Tu vas m'amputer aujourd'hui !»
Etta sursauta, horrifiée. Yémin se retourna, lentement. Sans ouvrir les yeux, le pirate leva la main et pointa un doigt ferme sur lui.
« Rassemble les instruments dont tu disposes et mets-toi au travail. Il faudra se passer du reste. Je veux en finir, d'une façon ou d'une autre. »
« Bien, capitaine, » acquiesça Yémin. Il changea de cap et se dirigea rapidement vers la porte. Tout aussi rapidement, Etta vint lui bloquer le passage. Cloué par le regard d'aigle noir et impitoyable, il carra les épaules, prêt à l'affrontement. Mais il lut dans ses yeux-là comme du soulagement.
« Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider, »
déclara-t-elle simplement. Il eut un hochement de tête. Trop bouleversé pour répondre, se coula derrière elle et sortit. Parvenu au milieu de la descente des cabines, il s'arrêta, s'appuya à la cloison et s'abandonna au tremblement qui le terrassait. Anéanti, il prenait conscience de sa bravade. Ses paroles téméraires allaient se matérialiser en une tache sanglante. Il avait déclaré qu'il porterait le scalpel dans la chair de Kenneth, qu'il inciserait, qu'il sectionnerait l'os, détacherait la jambe. Il secoua la tête, refusant de se laisser intimider par l'énormité de la situation.
« Plus moyen de reculer !»
s'exhorta-t-il, et il se hâta d'aller trouver Brig. En chemin, il espéra qu'on avait retrouvé le coffret à pharmacie. Le capitaine Faini reposa sa chope, se lécha les lèvres et fit un large sourire à Brashen.
« Vous êtes doué pour ça, vous le savez ?»«
Je crois. »
Brashen accueillit le compliment avec réticence. Le contrebandier rit à gorge déployée.
« Mais ça ne vous dit rien, pas vrai ?»
Brashen haussa les épaules. Le capitaine Faini l'imita, puis repartit de son rire rauque. Ses joues charnues s'ornaient de favoris, ses yeux de furet brillaient au-dessus de son nez coupe rosée. Il fit glisser sa chope sur la table maculée d'auréoles, puis conclut apparemment qu'il avait éclusé suffisamment pour la journée. Il repoussa sa chope, tendit la main vers la boîte à sindine, retira le bouchon de verre filigrané du coffret de bois sombre qu'il retourna et secoua. Plusieurs grosses barrettes de drogue en sortirent. Il rompit un généreux morceau de chic, puis offrit la boîte à Brashen. Celui-ci secoua la tête sans rien dire, en se tapotant d'un geste significatif la lèvre inférieure où un reste de sindine le brûlait agréablement. Noir, riche en goudron, la drogue propageait dans ses os des vrilles de bien-être. Brashen conservait encore assez de bon sens pour comprendre que flatterie et pot de vin n'étaient pas gratuits. Il se demanda vaguement s'il aurait la volonté suffisante pour résister à Faini, le cas échéant.
« Bien sûr que vous ne voulez pas un morceau. »«
Non, merci. »«
Non, ça ne vous dit rien d'être doué pour le commerce. »
poursuivit Faini comme s'il ne s'était pas interrompu. Il se carra pesamment sur sa chaise et inspira avec lenteur par la bouche pour accélérer les effets de la sindine. Il soupira. Pendant un instant, on entendit que le clapotis des vagues sur la coque de la veille du printemps. L'équipage était à terre, occupé à remplir des bonbonnes d'eau à une petite source que Faini leur avait indiquée. En qualité de second, Brachen aurait dû surveiller l'opération, mais le capitaine l'avait invité dans sa cabine, et au lieu des remontrances attendues, il lui avait offert à boire et à chiquer au beau milieu de son quart. « Honte à toi, Brachen Trell, » se dit-il en souriant amèrement. « Que penserait de toi le capitaine Vestrit s'il te voyait aujourd'hui ?» Il leva une nouvelle fois sa chope.
« Vous voulez retourner à Terrilleville, n'est-ce pas ?»
Faini inclina la tête et pointa un doigt épais sur Brachen.
« Si votre souhait se réalisait, c'est ce que vous feriez, reprendre là où vous vous êtes arrêté. Vous étiez un homme de qualité là-bas. Vous tentez de le nier, mais cela vous colle à la peau. Vous n'êtes pas né sur les quais.
Peu importe où je suis né, non? C'est ici que je suis maintenant. »
fit remarquer Brachen en riant. La sindine se déroulait à l'intérieur de lui. Il reproduisait le sourire hilar de Faini. Il aurait dû s'inquiéter que le capitaine eût deviné son origine, mais il croyait pouvoir arranger ça.
« Exactement ce que j'allais dire. Vous voyez, vous êtes malin. Il y en a beaucoup qui n'acceptent pas leur sort. Ils sont toujours à ressasser le passé ou à bâiller après l'avenir. Mais des hommes comme nous... »
Il claqua sur la table qui résonna.
« Des hommes comme nous savent saisir ce qu'on leur offre et en tirer le meilleur parti. »
« Bon, vous allez me proposer quelque chose, »
risqua Brachen sournois.
« Pas exactement. Disons plutôt qu'il s'agit de ce que nous pouvons nous proposer l'un à l'autre. Regardez-nous. Regardez ce que nous faisons. Je sillonne la côte avec la veille du printemps. Je fais du cabotage dans des tas de petits ports. J'achète, je vends, et je ne pose pas trop de questions. » Je transporte des marchandises de qualité et je fais des affaires. J'ai de la bonne qualité. Vous savez que c'est vrai.
C'est vrai,
admit aisément Brachen. Ce n'était pas le moment de mentionner l'origine des produits dont il faisait trafic. La veille du printemps et Faini commerçaient dans les îles des pirates en rachetant le meilleur de leur butin et le revendant à un intermédiaire à chandelle. De là, on faisait passer la marchandise blanchie dans d'autres ports. Brachen n'en savait pas beaucoup plus et peu lui importait. Il était second sur la veille du printemps. En échange de quoi, et parce qu'il faisait de temps à autre office de garde du corps, il avait sa cabine, il était nourri, il recevait un peu d'argent et de la sindine de bonne qualité. Que demander de plus ?
« Du surchoix !» répéta Faini. « Sacrée bonne qualité !» Et on prend des risques, nous, vous et moi. Alors, on rapporte la marchandise à chandelle et qu'est-ce qu'on en tire? De l'argent? Une misère. On leur apporte un cochon bien gras et ils nous jettent les os. Mais ensemble, Brachen, vous et moi, on peut faire de grandes choses.
Et comment vous voyez ça?
La conversation commençait à le mettre mal à l'aise. Faini avait des intérêts dans la veille du printemps, mais il n'en était pas propriétaire. Brachen ne tenait pas à être mêlé à des affaires de piraterie proprement dites. Dans sa jeunesse, il avait déjà fait sa part, et plus que sa part même. Non, il n'avait aucunement l'intention d'aller au-delà de ce négoce de marchandises volées. Il n'était peut-être plus le respectable second de la vivacia, ni même le laborieux lieutenant d'un navire abattoir comme le moissonneur, mais de là à se faire pirate, il n'était pas tombé aussi bas.
« Vous avez de la classe, comme je le disais. Vous êtes d'origine marchande, pas vrai? Probablement le fils cadet ou quelque chose comme ça, mais vous auriez les relations à Terrilleville si vous vouliez les utiliser. On pourrait leur rapporter du joli butin là-bas. Vous nous trouveriez les clients et on pourrait échanger de la marchandise super choix contre ces bricoles magiques qu'ont les marchands, ces carillons, ces pierres précieuses parfumées et tout ce qui s'ensuit.
Non,
Rachen se rendit compte trop tard de la brutalité de sa réponse qu'il s'empressa d'adoucir.
« C'est une bonne idée, une fameuse bonne idée même. Mais il y a un hic. Je n'ai aucune relation. »
Dans un élan de générosité probablement dû à la Sindine, il gratifia Faini de la vérité.
« Vous avez raison, je suis d'origine marchande. Mais je suis brouillé depuis longtemps avec ma famille, qui a coupé les ponts. Si je mendiais à la porte de mon père, on ne me donnerait pas un verre d'eau. Alors, passer un marché pour vous, mon père ne pisserait même pas sur moi si je prenais feu. »
Faini s'esclaffa, et Brachen se joignit à lui avec ironie. Il ne comprenait pas pourquoi il racontait tout cela, et avec tant de légèreté par-dessus le marché. Cela valait mieux que d'avoir l'ivresse larmoyante. Faini reprit son sérieux, rit encore un peu, puis avala une rasade de bière. Avait-il encore un père quelque part? Une femme? Des enfants, peut-être? Brachen ne savait presque rien de lui. C'était mieux ainsi. S'il lui restait un soupçon de bon sens, il se lèverait sur le champ, prétexterait qu'il devait surveiller l'équipage et s'en irait avant d'en révéler davantage sur lui-même. Mais il cracha les restes collants de la Sindine dans le seau sous la table et tendit la main vers la boîte. Faini le gratifia d'un grand sourire quand il rompit un nouveau morceau de la barrette.
« Pas besoin que ça soit votre père. Un homme comme vous, ça a des camarades, des vieux amis, non? Vous devez bien connaître personnellement ou par oui dire quelqu'un qui serait intéressé. On trouve partout des gens qui ne demandent pas mieux que d'arrondir leur bourse ni vu ni connu. On pourrait y aller une ou deux fois par an, avec un chargement de premier choix qu'on garderait exprès. Pas énorme, mais de la meilleure qualité. Et c'est ce qu'on leur demanderait en échange. Confidentiellement, vous et moi, on serait les seuls à savoir. »
Rachen hocha la tête, plus pour lui-même que pour Faini.
Oui.
Le capitaine escomptait se faire un peu de supplément derrière le dos de son associé.
Voilà ce que valait le code d'honneur des voleurs.
Il proposait tranquillement à Brachen de l'inclure dans l'affaire s'il l'aidait à trouver des débouchés.
C'était une sale combine. Faini l'avait-il regardé? Comment pouvait-il croire que lui, Brachen, était son homme? Combien de temps pourrait-il faire semblant de l'être? À quoi bon continuer d'ailleurs?
J'y réfléchirai, dit Brachen.
C'est ça,
répondit Faini, hilar. En fin d'après-midi, Yéma s'accroupit sur le gaillard d'avant à côté de Kenit.
Enlevez-lui la couverture,
ordonna-t-il aux hommes qui l'avaient transporté.
Je veux qu'il repose sur les planches du pont, en contact aussi étroit que possible avec le bois sorcier.
À quelques pas de là, se tenait Eta, les bras croisés sur la poitrine, apparemment impassible, la tête détournée de Vivacia. Yéma évitait de regarder la femme pirate, qui, à part lui, avait remarqué ses poings serrés et sa mâchoire contractée. Elle avait bataillé contre la décision qu'il avait prise de procéder à l'amputation sur le pont. Elle voulait la protection des murs et l'intimité autour de cette affaire douloureuse et salissante. Yéma l'avait emmenée là et lui avait montré sa propre empreinte sanglante sur le pont. Il lui avait promis que Vivacia pourrait aider Kenit comme elle l'avait aidé, lui, Yéma, quand on lui avait amputé le doigt. Elle avait fini par capituler. Il ignorait, tout comme Vivacia, dans quelle mesure le navire était capable d'aider, mais la pharmacie manquant toujours, la moindre contribution de sa part serait la bienvenue. Le navire était mouillé dans une crique sans nom d'une île ne figurant sur aucune carte. Yéma avait réitéré auprès de Brig ses questions sur la pharmacie et sur Hans au taureau. Les réponses avaient été décevantes. Le coffret n'avait pas été retrouvé. Et sans la Marietta pour les guider, Brig ne savait pas comment rejoindre Hans au taureau. Yéma en était découragé mais non surpris. Le commandement provisoire de la Vivacia était pour Brig un pas de géant. À peine quelques jours auparavant, il n'était qu'un simple matelot. Il ne connaissait pas la navigation, il ne savait pas lire les cartes. Il avait l'intention de trouver un mouillage sûr et d'attendre que la Marietta les dénichât ou que Kenneth se sentît assez d'aplomb pour le guider. Lorsque Yémin lui avait demandé, incrédule, s'ils étaient complètement perdus, Brig avait répondu qu'on pouvait savoir où on se trouvait sans pour autant savoir comment en sortir. La colère froide contenue dans la voix du jeune marin avait incité Yémin à ravaler sa langue. Point n'était besoin de mettre les anciens esclaves au courant de la situation. L'occasion eût été trop belle pour Saadar. Même aujourd'hui, le prêtre se tenait à l'écart du groupe. Il n'avait pas proposé son aide, que du reste Yémin n'avait pas sollicité. Les prêtres errants étaient plus souvent juges ou médiateurs que guérisseurs ou érudits. Alors que Yémin avait toujours respecté le savoir et la sagesse même de cet ordre, il n'avait jamais tout à fait admis l'idée qu'un homme se crût le droit de juger son prochain. Et ce savoir à présent l'objet de cet examen rigoureux ne le soutenait guère. Dès qu'il sentait sur lui le regard de Saadar, il éprouvait la certitude glaçante que l'homme le jugeait méprisable. Le prêtre se tenait, bras croisés sur la poitrine, flanqué de deux faces de cartes auxquelles il parlait à mi-voix. Yémin les chassa résolument de son esprit. Si Saadar n'avait pas l'intention d'apporter son aide, qu'au moins il ne le dérange pas. Le garçon se leva et se dirigea vers la proue du navire. Vivacia tourna la tête et lui jeta un coup d'œil inquiet.
« Je vais faire de mon mieux, »
dit-elle à Yémin avant qu'il eût prononcé un mot.
« Mais n'oublie pas que nous n'avons pas de lien de sang avec lui. Il n'est pas de notre famille, et je ne le connais pas suffisamment, » ajouta-t-elle en baissant les yeux. « Je ne vais pas t'être d'un grand secours. »
Yémin se pencha très bas pour effleurer ses paumes.
« Prête-moi ta force, alors ce sera déjà beaucoup, »
dit-il pour la consoler. Leurs mains se joignirent, confirmant et renforçant l'étrange lien qui les unissait. En effet, il puisa à sa force. Quand il en prit conscience, un sourire vint éclore sur la figure de Vivacia. Ce sourire n'exprimait pas le bonheur, il ne signifiait pas non plus que tout s'était arrangé entre eux, mais il attestait que tous deux, ils partageaient la même détermination. Quoi qui pût les menacer désormais, quels que fussent les doutes qu'ils avaient pu nourrir l'un sur l'autre, ils s'engageaient pourtant ensemble dans cette affaire. Yémin leva son visage face au vent marin et pria ça, qu'il voulut bien les guider. Puis, il retourna à sa tâche. Il respira profondément et sentit que Vivacia était avec lui. Kenneth gisait sur le pont dans un état de prostration. Même de loin, Yémin reconnut l'odeur de l'eau de vie. État, assise à côté du malade, le persuadait à force de patiente cajolerie de continuer à boire. L'homme avait de respectables capacités d'absorption. Il était bien imbibé, mais n'avait pas perdu conscience. C'était aussi État qui avait choisi les hommes pour le tenir. À la surprise de Yémin, trois d'entre eux étaient d'anciens esclaves, dont un face de carte. Ils paraissaient mal à l'aise, mais déterminés, parmi les spectateurs béants. C'était la première mesure que Yémin allait devoir prendre. Il s'adressa à eux calmement, mais fermement.
Seuls ceux qu'on a appelés sont autorisés à rester. Les autres, circulez. J'ai besoin de place.
Il ne s'attarda pas à vérifier s'il était obéi. Ce lui serait une humiliation supplémentaire s'il constatait qu'il ne tenait aucun compte de son ordre. Le cas échéant, État interviendrait sans aucun doute. Il s'agenouilla à côté de Kenneth. Cela serait inconfortable d'opérer le malade à plat sur le pont, mais la force que Vivacia lui transmettrait en valait la peine.
et il regarda l'assortiment dérisoire des instruments qu'il avait récupérés. Et ils étaient soigneusement alignés sur un morceau de toile propre près du patient, mélange hétéroclite et improvisé. Les couteaux, affûtés pour l'occasion, venaient de la coquerie et les deux scies de la boîte à outils du charpentier. Il y avait des aiguilles à voile, grandes et grosses, et quelques aiguilles à coudre qui appartenaient à Etta. Celle-ci avait aussi fourni de la charpie en lin et en soie. Ridicule qu'il n'eût pas réussi à rassembler davantage de matériel. Un marin à bord est presque toujours équipé de ses aiguilles et outils. Mais toutes les possessions des hommes d'équipage massacrés avaient disparu. Les esclaves se les étaient certainement appropriés lorsqu'ils s'étaient emparés du navire. Qu'aucun d'eux n'eût cédé devant l'urgente nécessité disait assez à quel point ils en voulaient à Kenith de sa mainmise sur la vive nef. Yémin avait beau les comprendre, voilà qui n'arrangeait pas ses affaires. Il baissa les yeux vers ses instruments grossiers et comprit que sa tentative était vouée à l'échec. Cela revenait quasiment à trancher la jambe à la hache. Il leva la tête et chercha Etta du regard. « Il me faut de meilleurs instruments, » affirma-t-il à mi-voix. « Je n'ose pas commencer avec cela. » Elle était songeuse, le regard et l'esprit ailleurs. « Si seulement nous avions le matériel de la Marietta, » dit-elle pleine de regrets. Durant cet instant d'abandon, elle parut presque jeune. Elle tendit la main et roula entre ses doigts une des boucles noires de Kenith. Une tendresse surprenante se peignit soudain sur son visage quand elle regarda l'homme assoupi. « Si seulement nous avions le coffre à pharmacie de la Vivacia !» répondit Yéma avec la même gravité. « Il se trouvait dans la cabine du second. Il contenait beaucoup de choses qui m'auraient été utiles, des remèdes et des instruments. L'opération aurait été plus supportable pour lui. Personne n'a l'air de savoir où il est passé. » Le regard d'Etta s'assombrit, son visage se durcit et se rembrunit. « Personne ?» demanda-t-elle froidement. « Il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose. Il suffit de le demander comme il faut. » Elle se releva brusquement. En traversant le pont, elle dégaina son poignard. Yémin devina aussitôt quelle était sa cible. Saadar et ses deux acolytes s'étaient retirés à l'écart, mais sans quitter le gaillard d'avant. Le prêtre errant se retourna avec quelques secondes de retard. Etta était déjà sur lui. Du dédain, il passa, les yeux exorbités, à la stupéfaction, quand, de sa lame aiguisée, elle lui entailla la poitrine. Avec un cri, il recula en titubant, baissa les yeux sur le plastron fendu en deux de sa chemise en haillons. Sur sa poitrine velue, une ligne mince rougit et s'élargit tandis que le sang commençait à sourdre. Les deux gaillards de garde du corps regardèrent le poignard qu'Etta tenait prêt. Brig et un pirate s'étaient approchés et serraient les rangs. Durant un instant, personne ne bougea ni n'ouvrit la bouche. Yémin pouvait presque entendre Saadar peser ses choix. La blessure n'était qu'une estafilade douloureuse mais bénigne. La femme pirate aurait pu l'éventrer sur place. Alors, que cherchait-elle? Le prêtre se décida pour la vertu outragée.
« Pourquoi ? »
demanda-t-il, théâtral. Il ouvrit grand les bras pour montrer les raflures sur sa poitrine, puis se tourna à demi afin de s'adresser aux esclaves groupés au milieu du navire, aussi bien qu'à Etta.
« Pourquoi m'avez-vous attaqué? Qu'ai-je fait sinon me présenter pour proposer mon aide ?»«
Je veux le coffre à pharmacie !» répondit Etta.
« Et tout de suite !»« Je ne l'ai pas !»
s'exclama Saadar furieux. Plus rapide qu'un chat, la femme bondit, toute griffe dehors. En un éclair, la lame zébra la poitrine d'une deuxième ligne sanglante qui vint croiser la première. Saadar serra les dents, mais ne cria ni ne recula, et Yémin perçut l'effort qui lui en coûtait.
« Trouve-le !»
ordonna Etta.
« Tu t'es vanté d'avoir organisé la mutinerie qui a eu raison du capitaine. Tu exhortes les esclaves à te suivre en te prétendant leur vrai chef. Si c'est vrai, tu dois savoir qui a pillé la cabine du second. On a pris la pharmacie. Il me la faut, immédiatement !»
La scène demeura en suspens le temps d'un souffle. Un signe, Un bref coup d'œil fut-il échangé entre Saadar et ses hommes. Yémin n'en était pas certain. Le prêtre se mit à parler d'une voix singulièrement hachée.
« Vous auriez pu simplement me demander, vous savez. Je ne suis qu'un humble prêtre de ça. Je ne cherche que le bien suprême de l'humanité. Ce coffre, à quoi ressemble-t-il ?»
Ses yeux interrogateurs tombèrent sur Yémin et sa bouche s'étira en un sourire fabriqué. Le garçon se força à conserver une expression neutre.
« Un coffret en bois, à peu près comme cela, » fit-il en indiquant les dimensions avec les mains. « Fermé à clé. L'image de Vivacia est gravée sur le couvercle. Il contenait des remèdes, des instruments de chirurgie, des aiguilles et de la charpie. Quiconque l'ouvre voit immédiatement de quoi il s'agit. »
Saadar se tourna vers les hommes rassemblés sur l'ambelle du navire.
« Vous avez entendu, mes frères ? L'un de vous a-t-il vu ce coffret ? Si oui, je vous prie de l'apporter sur le champ. Non pour moi, bien sûr, mais pour notre bienfaiteur, le capitaine Kenneth. Montrons-lui que nous sommes accessibles à la bonté. »
L'affectation était si transparente, Yémin crut qu'Eta allait étriper le prêtre sur place. Mais une étrange expression de patience se peignit sur le visage de la femme pirate. À ses genoux, sur le pont, Kenneth dit très doucement
« Elle sait qu'elle peut attendre. Elle aime tuer en prenant son temps, à l'abri des regards. »
Yémin tourna les yeux vers le pirate, mais celui-ci paraissait presque inconscient. Ses longs cils immobiles sur les joues, les traits détendus. Ses lèvres se contractèrent en un vague sourire. Le garçon lui posa deux doigts légers sur la gorge. Le pouls était régulier, bien perceptible, mais Kenneth était brûlant de fièvre.
« Capitaine ? »
demanda Yémin doucement.
« C'est ça ?»
Une voix de femme avait résonné. Les esclaves s'écartèrent et elle s'avança à grandes enjambées. Yémin se releva. Elle portait le coffret à pharmacier. Le couvercle avait été défoncé, mais il en reconnut le vieux bois. Il ne fit pas un geste et la femme apporta l'objet directement à Eta. Que la femme pirate règle son affaire avec Saadar. Il y avait déjà suffisamment d'animosité entre cet homme et lui. Elle baissa les yeux sur le coffre ouvert à ses pieds. Elle ne se pencha même pas pour en examiner le contenu. Puis, elle releva la tête vers Saadar avec un petit reniflement de dédain.
« Je n'aime pas jouer, » dit-elle très doucement. Mais quand j'y suis forcée, je m'assure toujours d'être la gagnante. »
Leurs regards se croisèrent. Ni l'un ni l'autre ne s'y hièrent. Les pommettes d'État se contractèrent et un sourire hargneux lui dénuda les dents.
« Bon, maintenant débarrassez-moi le plancher de cette racaille. Tout le monde en bas et fermez les écoutilles. Je ne veux ni vous voir, ni vous entendre, ni même vous sentir. » Tant que ce ne sera pas fini. Si tu es malin, ne t'avise pas de te faire encore remarquer. Compris ?
Saadar commit une lourde erreur. Il se redressa de toute sa hauteur, légèrement inférieure à celle d'Eta.
Dois-je comprendre que c'est vous, et non Brig, qui commandez ici ?
Dit-il d'un ton railleur. Le trait eût été habile s'il avait existé la moindre rivalité entre le second et la femme pirate. Brig rejeta la tête en arrière en s'esclaffant. Le poignard d'État se mit à danser en rayant une nouvelle fois la poitrine de Saadar. Cette fois, il cria et recula d'un pas. La lame avait mordu plus profondément dans la chair. Alors que le prêtre errant agrippait sa poitrine ensanglantée, elle eut un sourire menaçant.
« On a bien compris, je crois. » « C'est moi qui te commande !»
Un face de carte s'avança, la figure noire de fureur. Le poignard d'État le larda et il s'effondra en se tenant le ventre.
Vivacia poussa un cri sourd devant cette nouvelle effusion de sang sur son pont, en écho aux exclamations et sursauts des spectateurs. Yémin partagea le violent frisson d'horreur qui secoua le navire, mais il ne put détourner les yeux.
Saadar se retrancha derrière son autre garde du corps,
Mais le grand gaillard tremblait à son tour devant la femme au poignard. Personne ne prit la défense du prêtre. D'un mouvement subtil, tous s'écartèrent de lui en se dispersant.
« Et que ce soit bien clair !»
La voix d'État résonna comme un marteau sur une enclume.
Elle brandit la lame sanglante et décrivit un arc de cercle qui engloba le navire et tous les visages, tatoués ou non.
« Je ne tolérerai pas que quiconque menace le confort et le bien-être du capitaine Kenneth. Si vous souhaitez éviter mon courroux, vous vous abstiendrez de l'incommoder !»
dit-elle, puis elle ajouta d'une voix radoucie.
« C'est tout à fait simple. Maintenant, débarrassez-moi le plancher !»
Cette fois, la foule disparut comme de l'eau aspirée dans un tuyau. En quelques instants, seuls demeurèrent sur le pont les hommes d'équipage et les quelques esclaves qu'Eta avait choisis pour tenir Kenneth. Ceux-ci la regardaient avec un mélange singulier de respect et d'horreur. Yémin se doutait qu'ils avaient définitivement changé de camp et qu'ils la suivraient n'importe où. Restait à savoir si l'ennemi qu'elle s'était fait en la personne de Saadar serait ou non à redouter. Elle s'avança vers Yémin et leurs regards se croisèrent. La leçon qu'elle avait administrée au prêtre s'adressait aussi à lui. Si Kenneth expirait entre ses mains, la vengeance d'État serait terrible, sinon rapide. Il respira profondément alors qu'elle s'approchait de lui, le coffret dans les mains. Il le prit sans un mot, le déposa sur le pont et en tria rapidement le contenu. Il manquait quelques objets, mais l'essentiel y était. Avec un grand soupir de soulagement, il découvrit l'écorce de Kwasi, conservée dans de l'eau-de-vie. Le flacon était petit. Il pensa avec amertume que son père n'avait pas jugé utile de s'en servir pour alléger la douleur de son fils lors de l'amputation du doigt. Mais si le capitaine Havre l'avait utilisé alors, elle manquerait aujourd'hui pour Kenneth. Yémin haussa les épaules devant les caprices du destin et commença à ranger méthodiquement ses instruments. Il écarta la collection de couteaux de cuisine qu'il remplaça par les scalpels de la pharmacie. Il choisit une scie à os à poignée gravée comme une figure de proue. Il enfila trois aiguilles avec les cheveux de Kenneth qui ondulèrent une fois posés sur la toile. Il y avait une courroie de cuir munie de deux anneaux à l'extrémité pour sangler le membre avant de l'amputer. C'était tout. Il inspecta une dernière fois les instruments alignés, puis il leva les yeux vers Eta. « J'aimerais prier. Nous serons tous mieux préparés, peut-être, après quelques instants de méditation. »«
Contente-toi de t'y mettre !»
ordonna-t-elle rudement. Sa bouche formait une mince ligne et ses pommettes étaient rigides.
« Tenez-le !»
répondit Yémin d'une voix qui lui parut pareillement brusque. Était-il aussi pâle qu'elle? Le dédain d'État alluma en lui une étincelle de colère qu'il tâcha d'attiser pour la transformer en détermination. Elle s'agenouilla à la tête de Kenneth sans le toucher. Deux hommes empoignèrent la jambe saine et la clouèrent sur le pont. Deux autres lui maintenaient les bras. Brig voulut lui tenir la tête, mais son capitaine se dégagea d'une secousse. Il souleva la nuque et, les yeux écarquillés, lança à Yémin un regard furieux.
« C'est pour maintenant ? »
demanda-t-il sur un ton à la fois interrogateur et rageur.
« C'est pour maintenant ? »
« C'est pour maintenant, » répondit le garçon. « Préparez-vous. » Puis, s'adressant à Brig, «
Tenez-lui bien la tête. Posez les paumes sur son front et appuyez de tout votre poids. Moins il se débattra, mieux cela vaudra. »
De lui-même, Kenneth reposa la tête et ferma les yeux. Yémin souleva la couverture qui recouvrait le moignon. Son état avait empiré depuis le dernier examen. La peau était tendue par l'enflure et luisante, la chair avait une teinte livide.
« Vas-y,
tant qu'il a encore du courage. »
Il s'efforça d'oublier que sa propre vie dépendait de son succès. Alors qu'il ajustait avec précaution la courroie sous le moignon, il s'interdit de penser à la souffrance de Kenneth. Il devait se concentrer pour l'amputer proprement et rapidement. La douleur n'entrait pas en ligne de compte. La dernière fois que Yema avait assisté à une amputation, l'atmosphère de la pièce était chaude et joyeuse. Des bougies et de l'encens brûlaient tandis que Saapart se préparait à sa tâche en priant et en psalmodiant. Mais aujourd'hui, ici, il n'y avait qu'une seule prière, celle muette de Yema, qui s'échappait au rythme de sa respiration.
« Ça, accorde-moi ta grâce, prête-moi ta force. Grâce en inspirant, force en expirant. »
Les battements assourdissants de son cœur s'apaisèrent. Son esprit s'éclaircit soudain, sa vision s'aiguisa. Il mit un moment à prendre conscience de la présence de Vivacia, plus intime que jamais auparavant. À travers elle, il percevait vaguement Kenneth. Il explora ce lien ténu avec curiosité. Il eut l'impression que le navire s'adressait à Kenneth de très loin, l'exhortant au courage et à la force, lui promettant de l'aider. Le garçon ressentit un pincement de jalousie qui lui fit perdre sa concentration.
« Grâce, force !» lui souffla la vive nef.
« Grâce, force !» répondit-il en inspirant. Il enfila la courroie de cuir dans les anneaux et la sangla fermement autour de la cuisse du pirate.
Kenneth rugit de souffrance. Malgré les hommes qui le clouaient aux planches du pont, son dos s'arc-bouta. Il faisait des soubresauts comme un poisson happé par un harpon. Les humeurs jaillirent des croûtes de la plaie et éclaboussèrent le pont. L'odeur infecte empuantit la brise. Etta se jeta en criant sur la poitrine de Kenneth et s'efforça de le maintenir à plat. Un terrible silence tomba quand le souffle lui manqua.
« Vas-y, nom de ça !»
hurla Etta.
« Finissons-en, mais vas-y !»
Yema s'agenouilla, figé par l'atroce souffrance de Kenneth qui l'inonda comme une vague glacée, le suffoqua, le submergea. Par le lien ténu qui unissait le pirate au navire, les violentes sensations se déversèrent sur le garçon. Il perdit son individualité. Hébété, il se contentait de dévisager la putain en se demandant pourquoi elle lui faisait cela à lui. Kenneth haleta, exhala un cri. Yema éclata en mille morceaux, comme un verre froid qu'on remplit d'eau chaude. Il n'était personne, il n'était rien. Puis, il était Vivacia. Puis, brusquement, il redevenait Yema. Il tomba en avant, paumes à plat sur le pont, absorbant son identité à travers le bois. Un Vestrit. Il était un Vestrit. Plus encore, il était Yema Vestrit, le garçon qui aurait dû être prêtre. Dans un frisson, Kenneth sombra dans l'inconscience. Dans le calme qui suivit, Yema se raccrocha à la conscience de soi, s'en enveloppa. Quelque part, la prière continuait.
Grâce, force, grâce, force. C'était Vivacia qui réglait pour lui le rythme de sa respiration. Il se ressaisit.
Etta sanglotait et jurait. Étalée en travers de la poitrine de Kenneth, elle le maintenait et l'enlaçait. Yema ne lui prêta aucune attention.
« Tenez-le »
dit-il sévèrement. Il choisit un scalpel au hasard. Il comprenait soudain ce qu'il avait à faire. La rapidité. La rapidité était essentielle. La douleur à ce point d'intensité pouvait tuer. Avec un peu de chance, il aurait achevé l'amputation avant que Kenneth eût repris conscience. Il enfonça la lame brillante dans la chair enflée, incisa vers le bas. Rien ne l'avait préparé à cette sensation. Au monastère, quand on abattait les bêtes, il aidait à l'écarissage. La tâche n'était pas agréable, mais elle était nécessaire. Il avait découpé de la viande froide, inerte, compacte et raidie après une journée de mortification. La chair de Kenneth était vive. Elle était tendre, fiévreuse. Elle cédait sous le fil affûté de la lame et se refermait aussitôt. Le sang montait et empêchait Yémin de voir ce qu'il faisait. Il dut saisir la jambe sous l'endroit où il incisait. Ses doigts enfonçaient beaucoup trop facilement dans la chair brûlante. Il s'efforçait d'agir vite. Sous le scalpel, les muscles se contractaient, se rétractaient. Le sang jaillissait à flot continu d'un rouge pourpre. En quelques secondes, le manche du couteau fut poisseux et glissant. Une flaque se forma sur le pont, sous la jambe de Kenneth, s'étala jusqu'à la bure du garçon. Il entrevoyait les cordons tendineux d'un blanc nacré qui disparaissaient à mesure qu'il les sectionnait. Une éternité s'écoula, lui sembla-t-il, avant que la lame atteignît l'os et s'y émoussa. Il jeta le scalpel, s'essuya les mains à sa chemise et cria « La scie !» On la lui lança et il l'attrapa au vol. Il eut la nausée quand elle pénétra dans la plaie, mais il ne flancha pas. Il la fit glisser sur l'os qui rendit un son terrible, un grincement mouillé. Kenneth reprit conscience en glapissant comme un chien. Il cogna sa tête sur le pont et son torse se convulsa malgré le poids des hommes qui le plaquaient au sol. Yémin se raidit, s'attendant à être submergé par la souffrance du pirate, mais Vivacia la contint. Il n'eut pas le loisir de s'interroger sur ce qu'il pouvait en coûter à la vive nef. Il n'eut même pas le temps d'en éprouver de la reconnaissance. Il sciait avec célérité et violence. Le sang lui éclaboussait les mains, la poitrine, les lèvres même. L'os céda si brusquement que la scie mordit dans la chair. Yémin extirpa l'instrument du membre pendant, le jeta, puis saisit un nouveau scalpel. Quelque part, Kenneth aboya. « Oh !» Un son au-delà du hurlement, suivi d'un gargouillement. Yémin sentit l'odeur aigre du vomi dans l'air marin. « Empêchez-les de s'étouffer » dit-il brutalement. Mais ce n'était pas Kenneth qui avait vomi. C'était un des hommes qui le tenait. Pas le temps de s'occuper de ça.
« Tenez-le bien, nom de ça !»
jura-t-il. Scalpel en main, il continua l'incision, qu'il interrompit juste avant que la jambe ne se détachât complètement. Il inclina alors la lame et découpa un lambeau de peau du moignon avant de trancher net la jambe et d'écarter le membre gangrené. Le cœur au bord des lèvres, il contempla son œuvre. Il ne s'agissait pas d'un quartier de viande bien coupé comme un rôti de fête, mais de chair vive. Dégagés de leurs attaches, les muscles en paquet se relâchaient et se contractaient par intermittence. L'os luisait et semblait l'accuser. Partout, le sang s'étalait. Il sut avec une certitude absolue qu'il avait tué son patient.
« Ne pense pas ainsi !»
l'avertit Vivacia. Puis, presque suppliante,
« Ne le force pas à croire ça, car pour le moment, liés comme nous le sommes tous les trois, il est obligé de nous croire, il n'a pas le choix. »
De ses mains sanglantes, Yémin prit le petit flacon qui contenait l'écorce de Quasi. Il avait entendu vanter son efficacité, mais la quantité semblait dérisoire face à une si vaste souffrance. Il déboucha le flacon et versa l'essence avec parcimonie afin d'en conserver pour le lendemain. Des zestes d'écorce obstruèrent le goulot. Il donna une secousse et des gouttes d'un liquide verdâtre aspergèrent inégalement la plaie, assourdissant instantanément la douleur. Yémin le sentit à travers Vivacia. Il restait moins de la moitié de l'extrait dans le flacon quand il le reboucha. Dents serrées, il effleura la chair en tapotant pour étaler uniformément l'épais liquide vert. La souffrance cessa soudainement, comme une vague qui se retire. Elle était parvenue à traverser en partie le bouclier de Vivacia, ce dont Yema ne prit conscience qu'à sa disparition. Il sentit en même temps le soulagement immédiat de la vive nef. Il s'efforça de se souvenir des gestes de sa part quand celui-ci avait amputé une jambe. Il avait ligaturé les artères en les refermant après en avoir replié l'extrémité. Et il se remit à la tâche. Brusquement épuisé et confus, il ne parvenait pas à se rappeler combien d'artères le prêtre guérisseur avait ligaturées. Il n'avait qu'un désir, s'écarter du gâchis sanglant qu'il avait causé. Il souhaitait désespérément s'enfuir, se mettre en boule quelque part, nier tout. Et il se força à continuer. Il rabattit le lambeau de peau sur la chair vive à l'extrémité du moignon. Il dut demander à Eta de prélever des cheveux supplémentaires sur la tête de Kenith et d'enfiler les aiguilles fines. Le pirate gisait absolument immobile à présent, la respiration haletante. Les hommes commençaient à desserrer leur prise.
« Ne le lâchez pas !» cria Yema. « S'il bouge pendant que je suture, il peut tout déchirer !»
Le lambeau ne recouvrait pas entièrement la plaie. Il fit du mieux qu'il put en étirant la peau là où c'était nécessaire. Il enveloppa le moignon d'une compresse ouatée qu'il noua d'une lanière de soie. Il avait beau faire vite, le sang suintait, lui tachait les mains, imbibait le tissu. Yémin perdit le compte des couches dont il emmaillota le moignon. Quand il eut terminé, il s'essuya encore une fois les mains sur le devant de sa bure, puis desserra la sangle. Le pansement propre rougit presque instantanément. Yémin faillit crier d'horreur et de frustration. Comment était-il possible qu'un homme ait tant de sang? Comment pouvait-il en perdre de telles quantités et rester en vie? Le cœur battant d'angoisse, il recommença le bandage. Le moignon dans les mains, il déclara d'une voix atone.
« J'ai fini. On peut le déplacer maintenant. »
Eta leva la tête de la poitrine de Kenith. Son visage était livide. Ses yeux tombèrent sur la jambe coupée. Le chagrin lui contracta la bouche. Avec un effort visible, elle détendit les muscles de son visage. Ses yeux brillaient encore de larmes quand elle ordonna aux hommes d'une voix rauque.
« Allez chercher la civière !»
Le trajet fut difficile, et il fallait faire descendre le malade par l'étroite échelle jusqu'au tillac. Quand ils l'eurent traversé, il fallut naviguer dans les coursives étroites menant aux chambres des officiers. À chaque fois que les poignées de bois de la civière heurtaient contre une cloison et que Kenith était secoué, Eta grondait. Quand on le transporta du brancard à la couchette, il ouvrit brièvement les yeux et bredouilla, affolé.
« Je vous en prie, je vous en prie, je serai sage, je vous promets, j'écouterai, j'obéirai, je promets. »
Eta prit un air si menaçant que tous les hommes baissèrent les yeux. On n'interrogerait certainement jamais le capitaine là-dessus. Une fois dans son lit, Kenith ferma les paupières et se tut. Les hommes quittèrent la cabine comme s'ils avaient le feu aux trousses. Yémin s'attarda un moment. Eta lui décocha un œil noir lorsqu'il toucha le pirate d'abord au poignet, puis à la gorge. Le pouls était faible et filant. Le garçon se pencha sur le malade et s'efforça de lui insuffler la confiance. Il lui posa ses mains collantes sur le visage, effleurant les tempes du bout des doigts, et priant tout haut ça d'accorder au patient force et santé. Sans lui prêter attention, Eta plia un linge propre qu'elle glissa adroitement sous le moignon bandé.
« Et alors, maintenant ?»
demanda-t-elle d'une voix plate quand Yema en eut terminé.
« Maintenant, on attend et on prie, » répondit-il. « C'est tout ce qu'on peut faire. »
Elle émit un petit bruit méprisant et lui montra la porte. Il s'en fut. Le pont était dans un état affreux. Le sang qui l'imprégnait rendait l'endroit malsain. Les yeux de Vivacia étaient mi-clos, éblouis par le soleil couchant. Elle percevait la respiration de Kenneth dans sa cabine. Elle avait conscience de sa lente hémorragie. Le remède avait noyé la douleur, mais elle demeurait pour Vivacia une menace lancinante qui, à chaque battement de cœur, se rapprochait un peu plus. Bien que la vive nef ne pût déjà la ressentir, elle en devinait la démesure et en redoutait la venue. Yéma arpentait le gaillard d'avant et le nettoyait. Il trempa un reste de charpie dans un seau d'eau, essuya avec soin les scalpels, les aiguilles et la scie. Il serra le tout dans le coffre, dans un ordre méthodique. Il s'était lavé les mains et les avant-bras, débarbouillé la figure, mais le devant de sa robe était raidi et imbibé de sang. Il frotta aussi le flacon d'essence de Kwazi, examinant ce qui restait. « Pas grand-chose, » murmura-t-il à Vivacia. « Bah, qu'importe. Je doute que Kenneth vive assez longtemps pour en avoir besoin. Regarde-moi tout ce sang. » Il replaça le flacon dans le coffret, puis baissa les yeux vers le tronçon de jambe. Il le ramassa en grinçant des dents. Coupé à chaque bout, le genou au milieu, il se balançait, étroitement léger entre ses mains. Il l'emporta vers le bord. « J'ai l'impression que c'est mal, » dit-il à Vivacia. Il le lança pourtant par-dessus la lisse. Avec un cri sourd, il recula en titubant. La tête du serpent blanc avait surgi de l'eau pour happer le tronçon au vol. Aussi rapidement qu'il était apparu, il disparut et la jambe avec. Yéma se jeta sur la lisse, si Agrippa, scrutant les profondeurs glauques, cherchant à entrevoir quelques reflets de la créature. « Comment savait-il ? » demanda Yéma d'une voix rauque. « Il guettait, il a attrapé la jambe avant qu'elle touche l'eau. Comment a-t-il pu savoir ?» Sans attendre la réponse de Vivacia, il reprit. « Je croyais qu'il était parti. Que nous veut-il ? Pourquoi nous suit-il ? » ?»«
Il nous entend tous les deux, » dit-elle en baissant le ton pour n'être comprise que de lui seul. Elle se sentit confuse. Des gens avaient commencé de sortir par les écoutilles, remontaient sur le pont, mais personne ne s'aventurait sur le gaillard d'avant. L'apparition du serpent, brève et silencieuse, s'était produite à l'insu de tous.
J'ignore comment il entend, et je ne crois pas qu'il comprenne entièrement toutes nos pensées, mais il en saisit suffisamment. Quant à ce qu'il veut, eh bien, exactement ce que tu viens de lui donner. Il veut être nourri, rien de plus.
Peut-être devrais-je me jeter à l'eau. J'épargnerai à Eta le souci de le faire elle-même plus tard.
Le ton était moqueur, mais elle devina le désespoir qui perçait dans ses paroles.
Tu exprimes les pensées du serpent, non les tiennes. Il se tend vers toi, il réclame à manger. Il croit que nous sommes tenus de le nourrir. Il n'a aucun scrupule à te suggérer que ta chair le contenterait. Ne l'écoute pas.
Comment sais-tu ce qu'il pense et ce qu'il veut ?
Yéma avait abandonné son travail et se penchait sur la lisse pour parler à la figure de proue. Elle lui jeta un regard par-dessus son épaule. L'épuisement le faisait paraître plus âgé. Elle hésita à tout lui dire, puis conclut qu'il était inutile de chercher à le protéger. Il faudrait qu'il sache un jour ou l'autre.
« Il est de la famille ?» dit-elle simplement.
Devant le regard abasourdi de Yéma, elle haussa une de ses épaules nues.
« C'est ainsi que je le ressens. J'ai l'impression d'être liée à lui. Le lien n'est pas aussi fort qu'avec toi, mais il est indéniable. »«
C'est absurde !»
Elle haussa une nouvelle fois les épaules, puis changea brusquement de sujet.
« Tu dois cesser de croire que Kenneth va mourir !»
« Pourquoi ? Tu vas me dire qu'il est de la famille, lui aussi, et qu'il peut lire dans mes pensées ?
demanda-t-il avec une pointe d'amertume. Jalousie ? Elle ne voulut pas s'en réjouir, mais ne put résister à le provoquer encore un peu.
« Tes pensées ? Non, il ne peut lire dans tes pensées. C'est moi qu'il perçoit. Il se tend vers moi et moi vers lui. Nous avons conscience l'un de l'autre, de façon subtile, bien sûr. Je ne le connais pas suffisamment pour renforcer le contact. Son sang qui imprègne mon pont scelle ce lien d'une manière que je ne saurais expliquer. Le sang, c'est la mémoire. Quand tes pensées effleurent les miennes, elles influencent aussi celles de Kenneth. J'essaie d'empêcher tes craintes de s'insinuer en lui, mais cela me demande un effort. Tu es lié à lui ?
S'enquit Emma d'une voix lente.
Tu m'as prié de l'aider. Tu m'as demandé de lui prêter ma force. Crois-tu que je pouvais le faire sans me lier à lui ?
S'exclama Vivacia, indignée devant sa désapprobation.
Je n'ai pas pensé à cet aspect des choses, sans doute,
avoua Yéma à contre-cœur.
Tu le sens maintenant ?
Vivacia réfléchit. Elle se surprit à sourire avec douceur.
Oui, je le sens. Et plus nettement qu'avant,
répondit-elle, tandis que son sourire se dissipait.
Peut-être parce qu'il s'affaiblit. Je crois qu'il n'a plus la force de se couper de moi.
Elle en revint bientôt à Yéma.
Tu es persuadé qu'il va mourir, et cette conviction pèse sur lui comme une malédiction. D'une façon ou d'une autre, il faut que tu convertisses ton cœur, que tu vois Kenneth vivre. Son corps écoute intensément son esprit. Prête-lui ta force.
J'essaierai, répliqua-t-il de mauvais gré. Mais je ne peux quand même pas me convaincre de quelque chose que je sais être faux.
Yéma,
dit-elle sur un ton de reproche.
Très bien.
Il posa les mains sur la lisse, leva les yeux et contempla l'horizon. Le jour printanier se fondait dans le crépuscule. Le ciel bleu s'obscurcissait, sa couleur changeait peu à peu pour se mêler au bleu foncé de la mer. En quelques instants, on ne distingua plus l'horizon. Lentement, Yémin se retira en lui-même, reporta son regard vers l'intérieur jusqu'à ce que ses yeux se ferment d'eux-mêmes. Sa respiration était profonde, égale, presque paisible. Par curiosité, elle se tendit vers le lien qui les unissait et s'efforça de percevoir ses pensées et ses sentiments sans se montrer indiscrète. Mais en vain. Il fut immédiatement conscient de sa présence. Pourtant, au lieu de s'en irriter, c'est volontiers qu'il la rejoignit. Elle connut alors le flot régulier de ses pensées. Ça est dans toute vie est dans ça. Il avait une foi absolue dans cette simple affirmation. Il ne se concentrait plus sur l'état de santé du pirate, mais il affirmait que tant que Kenneth était vivant, la vie en lui appartenait à ça et participait de l'éternité de ça.
Sans fin, promit-il à Vivacia. La vie n'a pas de fin.
Après coup, elle découvrit qu'elle partageait sa certitude. Pas de ténèbres ultimes à redouter, pas d'arrêt brutal. Des changements, des mutations, certes, mais ne se produisent-ils pas à chaque respiration ? Le changement est l'essence de la vie. On ne devrait pas le redouter. Elle s'ouvrit à Kenneth, partagea avec lui cette intuition.
La vie continue. La perte d'une jambe n'est pas un terme, seulement un changement de cap. Tant que la vie bat dans le cœur d'un homme, tout est possible. Kenneth n'avait rien à craindre. Il pouvait se reposer désormais. Tout allait s'arranger. Il fallait qu'il se repose maintenant. Qu'il se repose simplement.
Elle se sentit envahie par la chaleur de sa gratitude. Les muscles contractés de son visage et de son dos se détendirent. Kenneth inspira profondément et expira lentement. Il s'arrêta là.